Rencontre spirituelle aujourd'hui, il est question de Father, ou du Père, Ronald Knox. Ronald Knox, c'est un homme très connu en Angleterre, c'est un intellectuel de grande valeur, un prêtre, un écrivain qui était fils de l'évêque anglican de Manchester. Il est mort il n'y a pas tellement longtemps, il y a 50 ans, 1957, il y a 40 ans je devrais dire. C'est un homme qui a suivi un peu le même chemin que John Henry Newman, qui est devenu cardinal dans l'Église catholique, lui qui était prêtre anglican, ou que quelqu'un dont je vous avais parlé, ça avait plu beaucoup, Robert Hugh Benson. Oh, il y a bien longtemps, je vous ai parlé de lui le 11 octobre 1995, dans la deuxième demi-heure d'une émission. À l'époque où je faisais au besoin deux personnes dans la même journée. Mais je reprendrai Robert Hugh Benson. J'ai en main d'ailleurs les Memorials of Robert Hugh Benson, publiés l'année après sa mort. Il est mort en 1914, cet homme qui était fils de l'archevêque de Canterbury et qui s'est fait prêtre catholique. Alors, c'est vous dire que l'influence de Pius VI, qui est considéré un peu comme un saint, chez les anglicans, qui lui est demeuré anglican et qui est dans mon prayer book, je sais pas si vous avez ça dans votre bibliothèque, c'est le livre religieux de l'Église anglicane, n'est-ce pas, qui en français s'appelle le livre de la prière commune. C'est le prayer book, quoi. Au début, il y a un calendrier liturgique. Et puis, j'ai vu le nom de Pius VI, le fameux anglican qui voulait le rapprochement avec l'Église catholique. Et puis, le cardinal Newman, lui, a fait le pas. Et plusieurs autres ont fait le pas en aboutissant finalement à s'unir à l'Église catholique qu'ils considéraient comme l'Église de leurs ancêtres. Ils auraient préféré, au fond, que l'union se fasse plutôt que de passer l'un après l'autre, mais ils ont un peu perdu patience. Et aujourd'hui, Ronald Knox, qui est né en 1888, rêve aussi de faire le pas avec Lord Halifax, dont je vous ai déjà parlé, et le cardinal Mercier, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, et puis tous ces gens qui ont souhaité l'union de ces deux grandes églises que sont l'Église catholique dite romaine et l'Église dite catholique anglicane. Mais aux États-Unis, l'Église anglicane, qui s'appelle épiscopalienne, se dit protestante depuis bien longtemps. Notre jeune Ronald Knox, donc né en 1888 en Angleterre, est fils du futur archevêque anglican de Manchester, et bercé dans sa jeunesse, donc, par les chants des hymnes anglicanes que nous entendons, nous, à Radio Ville-Marie, à 4h le samedi après-midi. C'est beau, les vêpres qui viennent de leur cathédrale anglicane, qui est située, comme vous savez, sur la rue Sainte-Catherine, entre Eton et la baie, la belle église, la belle Christ Church Cathedral. Il s'appelle Ronald Arbuthnot Knox, mais on va oublier son middle name. Il aime donc prier sur ses champs. Il est le dernier né de 6 enfants. Il est venu au monde le 18 février, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1888. Il y a donc 110 ans. Ronald a 4 ans. Quand il perd sa mère, il est confié à sa grand-mère maternelle, puis il vit ses premières années dans un de ses presbytères de campagne, dont l'atmosphère marque l'âme, puis le cœur de ses enfants de prêtres, le cœur surtout de tous ceux qui y sont passés, paraît-il. Il est élevé, donc, au chant des hymnes et des cantiques, comme j'ai dit, puis aussi au murmure des prières traditionnelles de l'Église anglicane, qui sont très similaires à celles de l'Église catholique. C'est un fidèle observateur du dimanche. Un dimanche, à l'époque, est bien austère. C'est la fin du 19e siècle. c'est l'époque victorienne. Il n'est pas question de jouer le dimanche. Vous savez qu'à Toronto, c'est assez récent que l'on peut jouer au baseball le dimanche. C'est très strict à Toronto. Et en Ontario, dans toute... On parlait surtout de Toronto quand j'étais jeune. Et sa piété enfantine à Ronald Knox l'attire vers ce qu'il appelle, lui, le miracle inouï de la rédemption. Il est très touché par le Christ. Et puis cette vérité, comme il le dira dans son Énéide spirituel, car il a beaucoup écrit, c'est pour lui un message évident que la venue du Christ et la rédemption. Les préceptes qu'il entend formuler, les exemples qu'il a sous les yeux, ça a sur lui une très forte emprise. Et le vieux prayer book dont je viens de vous parler, vous savez, vous pouvez acheter ça, mon Dieu, dans les magasins là, de la cathédrale, vous savez, sous la cathédrale anglicane, il y a une librairie, ça s'appelle le livre de la prière commune, ça se vend pour 100 fois rien, c'est un très beau livre, ça se vend 3,5 $, c'est relié en rouge avec une belle croix dorée, c'est immense, à 730 pages, c'est donné, hein? C'est rempli de psaumes et de prières, et de très belles prières qui sont très semblables aux nôtres. Alors, le vieux prayer book, qui est le manuel donc officiel de la prière anglicane, et tout ce qu'il sait de sa religion, du catholicisme, il ne connaît pas grand-chose. Et il regarde le catholicisme comme une secte aristocratique, parce que là où il habite, à la campagne, le châtelain de la paroisse de son grand-père est romain, comme on dit. Il est demeuré catholique, malgré les persécutions terribles qui ont eu lieu après 1532, quand le roi Henri VIII a séparé l'Église catholique d'Angleterre de l'Église catholique universelle. Alors, il considère le catholicisme comme une secte nuisible. Pour lui, la réforme en a débarrassé l'Angleterre. Il va noter plus tard, c'est un trait de notre peuple que nous rendons hommage au fait accompli. Pour eux, le fait accompli, c'est une bonne chose. L'Église anglicane séparée. Il ne sera pas toujours de cet avis, vous allez voir. C'est à l'automne de 1900, il y a 18 ans, que Ronald entre à Eton College, le plus célèbre des grandes écoles anglaises, près de Windsor, ou de Windsor. Tout va l'enchanter, la mélancolie des bâtisses sombres, de style Tudor, c'est beau. La fière statue d'Henri VI, le fondateur de l'école, la chapelle gothique aux hautes verrières, là, il y a des vitraux magnifiques. Les salles de classe aussi, qui sont très austères et très belles. Les pelouses, ah, les belles pelouses anglaises qui descendent vers la Tamise. Il apporte dans cette école une foi vivante. Que l'influence des psaumes succède à celle des hymnes, que l'on entend chez nous, n'est-ce pas, comme je vous ai dit, le samedi à 4 heures, va développer chez lui toute une foi encore plus vibrante. Ces moments de ferveur tout au début du séjour à Eton sont suivis d'une période de tiédeur tout à coup. Peu de prières, seulement des prières égoïstes, dit-il. Il se prépare bientôt à la confirmation, et c'est son père, alors évêque à Coventry, qui lui donne ce sacrement. Ben, on appelle ça un sacrement. Il a été conclu dans l'Église catholique que leur sacrement n'était pas valide. Il va se poser lui-même la question, et ça va beaucoup l'inquiéter quand il sera prêtre anglican. Je ne tranche pas la question, je laisse ça à d'autres. Jusque-là, il a subi donc la formation intellectuelle et religieuse qui marque très profondément là, les public schools anglaises. Et il serait arrivé à lui ce qui arrive aux autres élèves d'Eton, si Dieu ne lui avait envoyé en 1903, comme à Claudel, 17 ans plus tôt, sa grâce de Noël, c'était Noël, oui. C'est sous la forme d'un livre de Robert Hugh Benson, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce Robert Hugh Benson, fils de l'archevêque de Canterbury, qui va mourir en 1914. Alors, il lit ce livre, c'est « La lumière invisible ». Il prend contact, grâce à lui, donc, avec le monde surnaturel, dont il a pleine conscience. Si des gens sont intéressés à écouter cette émission sur Robert Hugh Benson, la cassette est disponible, c'est la cassette du 11 octobre 1995. Cette fête de Noël, dit-il, va marquer pour moi un tournant décisif. Les scènes évoquées par le livre de Benson, la petite chapelle où se célébrait l'office, la manière dont l'officiant parlait de la Sainte Vierge, les confessions entendues dans une vieille église paroissiale, tout cela me parut plus attachant que l'intérêt psychologique du livre. Ce catholicisme que j'avais seulement entrevu de loin, comme quelque chose de suspect, et qui m'avait attiré pour cette raison, entrait maintenant pour la première fois dans ma vie. Je me trouvais en face du problème. Un autre livre, « Histoire de l'Église d'Angleterre » de Wakeman, va fortement influencer. C'est l'heure où il prend plaisir à lire, à perdre haleine. Qu'est-ce qu'il lit? Les tracts de Newman. Quand Newman publie ses fameux tracts avant de se convertir, là. Le mouvement d'Oxford, c'est sa partie du mouvement d'Oxford, cette espèce de mouvement de rapprochement entre l'Église anglicane et l'Église catholique, eh bien, ça le passionne. Mais la conversion de l'auteur de Apologia pro vita sua, le Newman, lui fait l'impression d'une défection. Vous pouvez lire ça, Apologia, c'est très beau, hein, c'est très très beau, un livre à lire, de John Henry Newman. Et chez Ronald Knox, en tout cas, rien de bien net encore, il continue à beaucoup travailler, la poésie l'émeut. Oh, il aime Keats. Il aime Browning aussi, c'est un peu plus hermétique ça. Il écrit dans le magazine de son école, collabore à d'autres revues, et son intérêt pour le catholicisme grandit toujours. Mais Ronald Knox est cependant si peu préparé à une conversion rapide qu'un voyage en Europe où il visite beaucoup d'églises ne lui laisse aucune impression durable. Je comprends, parce que c'est souvent tellement laid et tellement mal organisé, comparé aux églises anglicanes qui sont habituellement très belles. La chapelle d'Eton a toujours eu à ses yeux une grande importance. Elle était dédiée, ainsi que l'école, à Saint-Nicolas et à la Sainte Vierge. J'éprouvais fortement le sentiment du patronage de la Mère de Dieu, écrit-il. Son nom faisait partie de notre titre. Et ses lys figuraient dans notre blason. Et à cette époque, écrit-il encore, malgré mon ignorance presque complète de la prééminence de la Sainte Vierge sur les autres saints, je pensais déjà qu'elle me portait un intérêt particulier et qu'elle exerçait une influence spéciale sur ma vie. Et un autre sentiment va naître en son âme, c'est l'esprit de sacrifice, qui l'amène bientôt à un geste imprévu. Il écrit « Cette soif d'ascétisme me conduisit à une résolution plus durable ». Écoutez bien ça, c'est surprenant. Je crois que je pourrais encore indiquer la place précise de l'escalier où, âgé de 17 ans, je m'agenouillais un soir dans l'escalier et je me liais par le vœu du célibat. Parce que pour eux, les prêtres anglicans peuvent se marier. Hein? Et ce geste, on peut se demander, s'explique, comme il dit que c'était pour pouvoir servir le Christ totalement, sans empêchement aucun. Et qui oserait prétendre que Notre-Dame d'Eton, la Vierge au Lys, soit étrangère à cet engagement de Ronald Knox. Il semble que la Sainte Vierge veille sur lui d'une façon très particulière. C'est assez étonnant. C'est très beau, c'est ce qu'il raconte. Alors, Ronald Knox, qui est encore élève d'Eton, avec un an d'avance, a gagné une bourse pour aller étudier au Balliol College, si le voilà maintenant, à l'Université d'Oxford. Et dans un college, où il retrouve beaucoup d'anciens élèves d'Eton. Il ne semble pas avoir gardé un souvenir bien marqué du temps passé à l'ombre de l'alma mater d'Eton. C'est un esprit curieux, il s'intéresse surtout aux disciplines classiques. Et c'est sans doute à son amour du latin qu'il faut attribuer en partie l'attirance qu'il ressent déjà pour la messe et l'office dans cette langue latine. À Oxford, comme à Eton, il remplit toutes les obligations d'un pratiquant consciencieux pour l'assistance aux offices, la fréquence des confessions aussi, parce qu'il se confesse, les anglicans de la Haute Église. Et puis, la participation à la communion anglicane. Il reste anglican, donc, et les pratiques religieuses qu'il adopte n'ont dans son âme aucune base doctrinale, dit-il. Il fait la génuflexion, mais sans croire à la présence réelle. Bien plus en essayant de croire seulement à une présence spirituelle, dit-il. Il a perdu, au fond, la foi aux effets de la prière de demande aussi. Ne crois pas que ce soit nécessaire. Je vais faire une émission là-dessus bientôt, hein. Pourquoi demander à Dieu des choses quand on sait que Dieu sait tout? On va aborder cette question-là bientôt. Alors, les catholiques qu'ils rencontrent de ci, de là, là, et c'est alors que se place sa première entrevue avec Mgr Benson, là, dont je vous ai parlé, Robert Hugh Benson, n'ont aucune influence sur sa vie. Ça le touche pas. Ce qui garde toujours de l'emprise sur son âme, ce sont les hymnes puis les cantiques anglicans. Qu'il les écoute dans une église ou qu'il les chante sous une tente là, dans la période des vacances, ou bien qu'avec son père évêque, il participe à des offices religieux, même sur la plage de Blackpool. Et... Mais nous sommes finalement à l'été de 1908 et bien des influences vont jouer sur lui. Ça va amener, dit-il, la fin de cette période où le style d'anglicanisme qui combine une espèce de rituel compliqué puis la doctrine sacramentelle avec ce qui est connu sous le nom de loyauté au prayer book le satisfait complètement. Mais quelles sont donc ses influences, hein? Un climat artificiel de contraintes qui lui montre, au hasard de ses voyages, la variété des us et coutumes anglicanes, l'atmosphère anglo-catholique qu'il va respirer à Calder dans cette abbaye, anglicane, très catholique, d'allure. Et on les appelle les anglo-catholiques. Ce sont des anglicans. Ils sont tellement catholiques, des fois, qu'ils sont presque plus que nous. Et puis, alors, ils goûtent là-bas chez ces bénédictins de Calder, soit dit en passant, qui sont devenus des catholiques cisterciens. Hein? Ils ont changé d'église, ces moines, depuis. Alors, ils goûtent donc la poésie des cloîtres, comme on dit souvent, la poésie des cloîtres. Ça enchante tout le monde, ça. Puis la doctrine de l'intercession des saints aussi, ça le surprend, puis il aime ça. Les rites aussi, et les dévotions, ça l'enchante. Mais les évêques de son église n'approuveraient pas ce que font ces anglicans-là. Lui qui, il y a peu de temps, affirmait ne croire ni à l'Immaculée Conception ni à l'Assomption, prend réellement conscience de la position unique de la Sainte Vierge. C'est toujours la Sainte Vierge qui veille sur lui, et ses contacts de plus en plus fréquents avec les adeptes de la branche la plus avancée du mouvement d'Oxford dont je vous ai parlé, mais ça... C'est clair pour lui la solidité des dévotions dites romaines. Puis le rôle de Saint-Pierre aussi. C'est sur Saint-Pierre que l'Église a été fondée. Hein? À qui il assigne d'ailleurs la primauté de l'Église. Il le reconnaît petit à petit. Et enfin, un voyage en Europe où il s'arrête à Bruges, en Belgique, le met en contact avec une piété solide, surtout une piété eucharistique, car il y a une très forte piété eucharistique à Bruges à cause d'un grand miracle qui s'est déroulé là il y a des siècles. Et pourquoi ne s'est-il pas converti à ce moment-là? Ben, tel fait de l'Assomption, où il avait assisté aux offices dans une église catholique, il y a une espèce de fièvre, comme il l'appelle, romaine, qui l'a prise. Mais, en même temps, il est convaincu que les Anglais sont irrémédiablement détournés de Rome. Les Anglais sont irrémédiablement des Anglicans. Il y a un problème au fond de lui, il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est averti à un moment donné par son frère pour poser sa candidature à un poste vacant de fellow. Le mot est intraduisible, on peut dire agrégé en français, à Trinity College, toujours à Oxford, et son destin est maintenant marqué pour longtemps. Alors, à Trinity College, le jeune fellow se crée des bonnes amitiés, puis dans les cercles des professeurs qu'il fréquente, là, il s'imprègne de quoi? Du ritualisme. On appelle ça le ritualisme, c'est la beauté des rites. Des rites de tradition catholique, au fond. Il discute de religion, de questions religieuses. Puis il en vient à reconnaître quelques valeurs au catholicisme. Il croit d'ailleurs que le catholicisme est utile, mais là seulement où l'anglicanisme est impuissant. Aussi, il se prépare à recevoir les ordres pour devenir prêtre anglican, et les ordres anglicans. Il travaille sérieusement les matières d'examen, et parce qu'il va être interrogé, hein, surtout celles qui portent sur la doctrine. Mais il a déjà de l'expérience et il sait que sa religion est sur certains points assez élastique. L'Église anglicane est un peu élastique. Il y a des catholiques là-dedans, il y a des protestants. C'est une étrange Église qui accueille un peu tout le monde. Alors il adhère aussi sincèrement qu'il est requis aux fameux 39 articles de l'Église anglicane. Hein? Il n'était encore nullement question pour moi, dit-il, de choisir entre l'Église anglicane et l'Église catholique. Mon cœur appartenait entièrement à la première, que je regardais comme un ensemble de formules mortes, mais comme une vivante assemblée de fidèles, et à ramener dans les voies d'autrefois. Il veut ramener l'Église anglicane à l'Église catholique, mais en gardant la beauté des choses. C'est beau, le culte anglican, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, il se mêle, la belle audace d'un jeune, à quelques manifestations qui émeuvent l'Angleterre en ce temps-là. Il reçoit quelques semences de son évêque. Et il passe l'été à l'abbaye de Cowdale, cette abbaye anglicane qui est devenue catholique, comme je vous ai dit, qui sont devenus des cisterciens, où il se prépare à recevoir le diaconat. Un de mes souvenirs les plus vifs est celui de mon dernier entretien avec l'évêque avant la cérémonie. Il insista sur le devoir d'invoquer sans cesse le secours de l'Esprit-Saint. Et je n'éprouvais, en m'agenouillant pour recevoir le sacrement, ni scrupule de conscience, ni picotement de doute. Et au comble de mes vœux, je retournais à Manchester dans une joie sans mélange. Alors le jeune diacre poursuit sa vie de prière, il récite même son bréviaire en latin. Il porte toujours la soutane. Il n'a aucune raison, dit-il, de circuler furtivement clergyman. Il n'est pas d'accord. Il s'adonne au ministère de la prédication, suivant l'usage. Il n'y réussit pas. Et ses idées avancées lui interdisent quelques d'endroits où il pourra enseigner. Il a assez peu de succès à Trinity College, où on le prend pour un novateur, voire comme un hérétique, quelqu'un qui penche trop du côté des catholiques. Il continue sa préparation à la prêtrise, mais dans une mauvaise atmosphère spirituelle. Il y a un livre d'histoire qu'il vient de lire, qui lui fait désormais considérer la réforme protestante comme une catastrophe. Il prépare ses futures messes anglicanes à la fois dans le prayer book et dans le missel romain. Il fait un heureux mélange, comme vous voyez. Et l'évêque, il l'interroge avant la collation de l'ordre, regrette les tendances de sa théologie. Il trouve qu'il est un peu trop catholique. Il est ordonné finalement prêtre anglican le 22 septembre 1912 à 24 ans à Reading. Le cérémonial est très avancé, c'est-à-dire qu'il emprunte beaucoup d'éléments à la liturgie catholique. Et deux jours après, il célèbre sa première messe à l'église Sainte-Marie. C'est le 24 septembre, le jour de la fête de Notre-Dame de la Merci. On dirait que la Vierge est toujours là. Alors, Ronald Knox se considère comme un paria dans l'Église d'Angleterre. Cela peut, après son ordination d'ailleurs. Il sent bien qu'il n'est plus à l'aise, là. Son ritualisme, c'est-à-dire cette espèce de recours aux rites, aux signes extérieurs qui entourent la prière, ça l'éloigne de l'Église établie d'Angleterre, l'Église anglicane. Il dit la messe tous les jours et une messe plus catholique en apparence qu'anglicane. Commence à envisager la soumission à Rome, mais oh, pour beaucoup plus tard, c'est pas possible. Un drame de conscience va naître. Là, le nouveau prêtre anglican se demande s'il peut exercer son ministère dans des conditions pareilles. Et là, la logique, d'ailleurs, l'amène plus loin. Et bientôt, il se pose la question, à qui et à quoi suis-je fidèle? Au prayer book? Alors, ce serait rendre, dit-il, l'homme esclave de ses instruments. Est-ce que je suis fidèle à mon évêque? Là, dans son secteur particulier, l'évêque est un serviteur de la couronne, du roi, de la reine. Car l'Église anglicane est une église d'État, dépendante du roi ou de la reine. Or, Knox veut avoir une fidélité toute surnaturelle. Et il arrive alors à penser que la loi de l'Église anglicane n'est pas absolue, qu'elle est comme une sorte de contrat entre le prêtre et la paroisse. Et si la majorité des paroissiens, d'accord avec le pasteur, désire quelque chose, l'évêque, tout qualifié qu'il soit pour donner l'impulsion à la loi, n'a jamais le droit de s'y opposer. Et c'est par là que le protestantisme s'est inséré dans l'Église anglicane. Tout le monde est libre. Et dans ces conditions, d'où vient donc l'autorité d'un ministre anglican? Il ne voit qu'une solution. C'est qu'il existe, dit-il, une autorité indépendante des lois, mais qui engage la conscience de manière absolue, et à savoir celle de tous les décrets et traditions en vigueur dans l'Église en Angleterre vers 1500, avant la rupture avec Rome, et la crise continue, au-dessus de l'autorité de l'Église catholique qu'il ne peut reconnaître encore. Il s'attache maintenant de préférence à l'enseignement qui se dégage des conciles. Alors là, il étudie les conciles. qui se dit, toujours anglican, mais qui se sent, dit-il, comme catholique romain dans l'Église anglicane. Parce que, invisiblement, Father Ronald Knox s'achemine vers la conversion. Au mois d'août 1913, il prêche à Plymouth trois sermons. Trois sermons importants, bien révélateurs de son état d'esprit. Le thème des trois sermons, c'est l'Église d'Angleterre, hier, aujourd'hui et demain. Alors hier, le premier sermon, qui s'intitule Hier, c'est l'histoire de la Réforme. Henri VIII, etc. Qui a consisté dans l'usurpation par la couronne, dit-il, des droits administratifs, jusqu'alors réservés à la papauté. Il ajoute, la Réforme a mis l'Église en état de captivité par rapport à la couronne. Car c'est la reine Élisabeth, en principe, qui est chef actuel de l'Église anglicane. Et celui qui va lui succéder, c'est le prince Charles, ça fait un drôle de successeur. Son deuxième sermon s'intitule « Today, aujourd'hui ». Et c'est une attaque contre les influences modératrices qui tentent à laisser les fidèles dans un état de médiocrité, dit-il. Il prétend, un peu comme Droverman prétend aujourd'hui, que les évêques sont de simples fonctionnaires. Mais lui, il va beaucoup plus loin. Il prétend que les évêques anglicans, simples fonctionnaires, n'ont pas le droit de dicter à l'Église sa ligne de conduite. Et que face au modernisme à l'époque, c'est tout le drame de l'absence d'une autorité vivante qui laisse tout le modernisme rentrer dans l'Église anglicane et saccager les dogmes. Et tomorrow, le troisième, demain, troisième jour, tomorrow, c'est la révélation et l'explication du désir de réunion avec Rome, ou, dit-il, avec le non-conformisme. Ah, dit-il, si Rome faisait le premier pas en acceptant l'ordination et les prétentions anglicanes à la continuité apostolique. Mais Léon XIII avait brisé ça. Léon XIII ne reconnaissait pas les ordinations anglicanes sous prétexte que les évêques n'étaient pas vraiment finalement de vrais évêques. Ils avaient perdu la continuité apostolique, comme on l'appelle, hein, d'évêque en évêque en évêque depuis les premiers apôtres. En tout cas, pour le moment, ils rejettent la soumission individuelle de certains anglicans qui se convertissent au compte-gouttes, là. Puis, il dit qu'on doit garder une vive espérance à une union totale, et c'est tout. Alors, pendant l'hiver 1913-1914, les crises intérieures ou extérieures qui assaillent l'Église anglicane, ça lui révèle plus intensément, là, le peu de sûreté de son enseignement. Puis la diversité inexplicable de ses pratiques essentielles. Alors, il va alors à San Remo, dans le nord de l'Italie, un lieu de villégiature. Mais ce séjour, où il mêle un peu de catholicisme à sa religion, n'a pas sur lui une très grande influence. Et à son retour, dans la mesure où on lui permet, là, certains évêques se sont émus de ses théories, il continue à prêcher, puis à écrire. Et le grave problème de l'autorité le hante toujours. Il dit, selon moi, toute autorité qui ne remonterait pas à l'Église romaine du Moyen-Âge, sans aucun mélange d'orthodoxie orientale, était sans valeur. Alors, il ne veut pas qu'elle soit inactive. Il la veut capable, dit-il, d'ordonner aux théologiens non orthodoxes de résigner ses fonctions et surtout de se rétracter. Non orthodoxe, ça veut dire qu'il n'est pas fidèle à la foi, ici. Hein? Ça n'a rien à voir avec l'Église orthodoxe, là. Il poursuit. Et c'est très important. Je n'envisageais évidemment ni la torture ni le bûcher, mais simplement une voie. Une voix parlant avec l'assurance d'être divinement inspiré. Il cherchait une voix, comme le pape Jean-Paul II qui parle et qui n'est pas toujours écouté. Je ne dis pas qu'on doit l'écouter toujours, 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 mais au moins qu'on lui soit fidèle. Au début du mois d'août 1914, Ronald Knox réside à Moorhall, près de Stroud, dans le Gloucestershire. Et un groupe d'étudiants doit le rejoindre, mais la guerre éclate et il va rester seul à employer sa solitude à la réflexion et à la prière. Il consacre, imaginez, 6 heures par jour à ses exercices de piété. Et l'idée lui vient d'établir pour ses frères anglicans comme une union de prière perpétuelle. Puis il lance cette idée dans un fascicule qui, en 2 mois, c'est fantastique, se vend à plus de 70 000 exemplaires. Et là, les vacances finies, Father Ronald Knox rentre à Oxford et le Trinity College, à cause de la guerre, n'a plus que le tiers de ses étudiants. Ayant obtenu un congé temporaire, là, notre fellow, vous vous souvenez, il avait été nommé fellow, laisse l'alma mater, s'en va à la public school de Shrewsbury, remplacer un de ses amis mobilisés, il va enseigner à Shrewsbury. Et là, c'est la marche vers la vérité. Father Ronald Knox commence à penser que les circonstances pourront l'amener à répudier l'Église d'Angleterre, qu'il aime pourtant. Il lit l'admirable sermon de John Henry Newman sur la séparation des amis. Ben, c'est pas facile se convertir, c'est séparer des amis. C'est dur se convertir, ce sont des gens courageux. Il dit, j'avançais vers sur une corde raide, non, c'est Newman qui dit ça. J'avançais sur une corde raide, non sans avoir toujours au-dessous de moi le filet de l'Église catholique. Si je venais à tomber, n'était-elle pas là pour me recevoir? Autrement dit, au cas où je me verrais obligé de quitter la communion anglicane, je trouverais ailleurs un asile assuré. Alors les doutes se font de plus en plus violents chez Ronald Knox. La question se pose avec une acuité toujours plus grande. Sur quoi? Sur quelle autorité repose sa religion? Sur quoi? Sur quelle autorité repose sa religion? Alors l'angoisse l'accable, puis elle atteint son paroxysme au cours de la première messe de son frère. Il se disait, nous n'étions prêtres ni l'un ni l'autre. Cette messe n'était pas la messe. Cette hostie n'était pas celle qui sauve. Puis là, au dernier évangile, parce qu'il y avait toujours le dernier évangile de Saint le début de l'évangile de Saint Jean, il dit, je ne puis formuler qu'une malédiction à l'adresse d'Henri VIII. Alors, loyalement, il prévient ses amis et sa famille, il rencontre partout sympathie et compréhension, puis il rend visite au fameux Lord Halifax, qui allait voir souvent le cardinal Mercier, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines en parlant du cardinal Mercier, qui était un grand ami du cardinal Mercier, Lord Halifax, qui est mort anglican, lui. Alors, il rend visite à Lord Halifax, qui l'a invité, et qui ne veut en rien l'empêcher d'obéir à sa conscience, Il rencontre chez lui, chez le Lord Halifax, le fameux père catholique Martindale, qui lui déclare tout net que ce n'est pas encore l'heure de la conversion. Pourquoi? Parce que l'Église catholique exige non pas tant la déception d'une croyance erronée, si on pense qu'on est dans l'erreur, ça suffit pas. Il faut une foi positive, croire que vraiment l'Église catholique, c'est celle fondée par Jésus-Christ. Alors, il lui dit qu'il continue à demander la lumière. Et à cause de la guerre, bien, il va attendre pour se décider, puis il ne prêche plus, ne confesse plus. Puisqu'il ignore d'où vient son autorité, ici même, il en a une, il n'est pas sûr. À Shrewsbury, là, à l'école, il essaie de noyer des doutes dans l'application qu'il apporte à faire la classe, et dans les relations qu'il entretient avec ses amis, puis il vit dans une espèce d'apathie spirituelle. C'est pas facile. Le seul bénéfice qu'il retire des offices en cette année 1916, c'est une espèce de sentiment de mélancolie. Il a 28 ans. Bientôt, il se rend compte que tous les efforts faits par les hommes, à différentes époques, pour inventer un substitut à la plénitude des droits de Saint-Pierre, ont été simplement des chemins en zigzag, finalement aboutissent au même but, parce que ça aboutit à Rome, dit-il. Alors, il laisse bientôt l'école de Shrewsbury pour Londres, où il vient d'entrer au ministère de la guerre, puis il va aider le clergé dans une paroisse. Et la pensée qu'il n'est pas validement ordonné prêtre l'inquiète toujours. C'est le moment où des discussions s'élèvent sur la réserve de l'Eucharistie, la réserve qu'on garde dans un tabernacle. Le moment aussi où l'Église de Rome ne l'attire pas. Ses doutes grandissent sur l'anglicanisme. Doit-il se convertir? Ah, c'est la nuit dans son âme. Pas facile de se convertir à l'Église catholique, quand on, surtout à cette époque-là, c'était pas drôle. Alors, il prend alors une résolution énergique. Il renonce à sa réélection comme fellow du Trinity College parce que, dit-il, j'avais coupé les ponts. Il prie Dieu de lui accorder de faire sa volonté et de lui donner la pureté d'intention. Il sent tout un passé qui s'éloigne. Là, les événements se précipitent. La grâce de Dieu pourrait-elle manquer à qui la désire? Que faire? Que faire? Sur le conseil, qui est très psychologique, d'un prêtre catholique oratorien, il y en a à Toronto des oratoriens, c'est les disciples de Saint... mon Dieu! Saint Philippe Néri. Alors, ce prêtre lui suggère d'éviter toute controverse il part chercher asile pour une retraite à l'abbaye bénédictine de Farnborough. Et ce sont des moines français qui se sont réfugiés là, hein, dans le Hampshire. Il y avait alors des religieux qui étaient sous la direction de le fameux Don Cabrol, le père abbé. Il arrive le 8 septembre 1917, le jour de la nativité de la Sainte Vierge. Notre-Dame est toujours là. Alors Ronald Knox aime tout de suite l'atmosphère de l'abbaye, puis s'entretient souvent avec le père abbé Don Cabrol, qui est un grand liturgiste. Il lui expose ses difficultés. Père Cabrol lui dit toute la grandeur du geste qu'il prépare. Il lui propose de lire l'histoire des variations des églises protestantes de Bossuet, puis de méditer quoi? L'imitation de Jésus-Christ. Et la lutte intérieure se poursuit. Et en fait, dit-il, le royaume était tout près de moi. Avant la fin de la première semaine, je compris que la grâce avait triomphé. Il est maintenant décidé. Mais il veut toujours s'instruire. Alors, par-delà la tombe, Robert Hugh Benson, qui est mort en 1914, le 11 octobre, Monseigneur Benson, le fils de l'archevêque de Canterbury, devenu prêtre catholique, va l'aider encore par ses romans catholiques. Ben oui, parce qu'il a écrit des romans, ce bon prêtre anglais. Il ne faut pas oublier qu'il avait orienté les pas de Ronald Knox vers l'Église catholique, je vous l'ai dit. Alors, sa décision irrévocable, la conversion est bientôt prise, et puis il en fait part à ses amis. Et puis là, les moines bénédictins de Farnborough, les Français, là, les catholiques, s'en réjouissent et le félicitent. Puis il note avec humour que la langue française est la meilleure quand il s'agit de complimenter quelqu'un. Alors, les Anglicans sont pour la plupart compréhensifs, heureusement. C'est vrai que les Anglicans sont extrêmement compréhensifs vis-à-vis nous, de plus en plus. C'est extraordinaire. J'aurais des belles choses à vous dire sur eux. Faudrait qu'un jour, je vous parle des Anglicans, puis de tout l'amour que j'ai pour eux. Alors, il est reçu, donc, dans l'Église catholique le 24 septembre 1917. C'est le jour de Notre-Dame de la Merci, encore. Toujours la Sainte Vierge. Il a 29 ans. Et fils de l'Église, bien, il rêve de servir sa mère, Marie. Comment pourrait-il mieux le faire qu'en devenant prêtre catholique? Là, il va bien savoir maintenant de quelle autorité il va recevoir le sacrement de l'ordre et les pouvoirs qui l'accompagnent. Et après ses études au Bader College à Rome et à St. Edmunds, le grand séminaire de Westminster, il est ordonné prêtre en 1919 à 31 ans. Enfin, il a le sacerdoce catholique. Et le sacerdoce n'est pas pour lui un long temps de repos, hein, par la parole et par la plume. Il va porter la bonne nouvelle. Il devient vite un prédicateur très recherché. Il a du succès aussi à la radio. Oui, à la radio. Et dès 1926, il revient à Oxford comme chapelain catholique de l'université. C'est fantastique. Il revient à Oxford, prêtre catholique. « I will lay me down in peace ». On peut l'imaginer que quand il a fait la grande prostration que les prêtres font, couché par terre avant de recevoir le sacrement de l'ordre. Il était dans la paix, le retour au bercail, comme il disait. Il écrit beaucoup, Father Ronald Knox, dans tous les genres. Dès 1918, il a donné le récit de l'itinéraire spirituel qu'il a suivi pour arriver à l'Église catholique. C'est ça qu'il appelle une énéide spirituelle. Il publie des romans, même des romans policiers, c'est sympathique. Par exemple, en 1933, il écrit « Le cadavre dans un silo ». Il écrit aussi des ouvrages de controverse. Puis, en bon anglais, des ouvrages de satire. Ils ont de l'humour, les Anglais. L'anglais d'Angleterre, surtout. Dans ce domaine, il est maître. C'est André Mauroy qui a eu raison d'écrire qu'il est un des meilleurs humanistes du demi-siècle de la première moitié du 20e siècle. Il écrit aussi « Enthousiasme ». Moi, j'aime ça, un titre comme ça, « Enthousiasme ». C'est ce qui nous manque à nous, catholiques. C'est paru en 1950, ça. C'est un des plus importants qu'il ait publié. Il a 62 ans, ce moment-là. Cette étude de psychologie religieuse s'attarde sur l'esprit de secte assez disparate, qui manque d'équilibre et qui commettent d'incontestables excès. Il analyse brillamment l'esprit des siècles, des sectes. Les pages essentielles sont sans doute celles qui ont trait au jansénisme et au quiétisme qui ont fait tant de tort au catholicisme, ses frères ennemis. Puis il s'attaque aussi au méthodisme. Pourtant, les fondateurs du méthodisme font partie du calendrier liturgique des Anglicans, eux qui ont quitté l'anglicanisme. Chose étrange, hein? C'est curieux l'anglicanisme. Il dit, c'est cet enthousiasme qui a habituer son pays à ne regarder la religion que comme une affaire sentimentale. Pour lui, c'est pas ça. John Wesley, le fondateur du méthodisme, j'ai fait une émission sur lui le 29 mars 1996, elle est disponible. Puis le mois précédent, le 26 février 1996, toujours, j'avais fait une émission sur la sainteté protestante, qui est une sainteté qui est très belle, hein? Mon frère protestant, il y a des saints là-dedans. Alors, entre-temps, cependant, celui qui, depuis 1936, est devenu Monsignor Knox, commence la grande œuvre de sa vie, c'est la traduction de la Bible, imaginez. Il démissionne de son aumônerie d'Oxford, il se retire dans le Shropshire, en 1939, et jusqu'en 1940, il s'occupe du nouveau Westminster Hymnal, un recueil de cantiques catholiques. Il est bientôt nommé président d'un comité chargé de fournir des livres aux catholiques mobilisés pendant la guerre de 39-45. La traduction du Nouveau Testament qu'il fait paraît en 1945. Elle reçoit une chaude approbation de la hiérarchie catholique d'Angleterre. Et depuis lors, Mgr Knox, qui n'est pas évêque, a ajouté deux volumes de commentaires solides. La traduction de l'Ancien Testament en deux tomes paraît en 1949. Imaginez de traduire toute la Bible, encore une autre. Et tout de suite, elle rencontre les plus chaleureux accueils. Hein. Même les journaux anglicans, comme les journaux catholiques, louent également cette grande œuvre. Pour répandre cette nouvelle version, dont les fidèles se montrent vite friands, on publie des éditions populaires. L'Épiscopat autorise bientôt cette œuvre pour la lecture publique dans les églises. Et c'est la consécration de ce beau travail de Mgr Knox. Mgr Knox présente sa traduction au public dans un délicieux petit livre qui intitulé « On Englishing the Bible ».« Englishing », en anglicisant la Bible, mais c'est pas ça qu'il veut dire, hein, « On Englishing the Bible », hein, à propos de la traduction de la Bible en anglais. Il y expose ses idées sur son travail. Enfin, en novembre 1955, paraît en un gros volume de 1200 pages sur papier Bible, l'édition définitive de cette nouvelle traduction revue et corrigée, en tenant compte des remarques que les éditions précédentes avaient suscitées. Hein. C'est imprimé sur les célèbres presses de l'Université de Cambridge. C'est présenté sous une élégante reliure, la Knox Version, c'est comme ça qu'on l'appelle, la Knox, K-N-O-X, Knox Version, comme les Anglais l'appellent. Hein. Elle est assurée d'un succès de plus en plus grand. Et l'évêque anglican de Londres lui-même juge ainsi cette belle réalisation. « Je ne connais aucune traduction moderne de la Bible qui vaille celle-là, dit-il. » Et ceci n'est pas un mince éloge, imaginez, de l'évêque de Londres, l'évêque anglican de Londres. Ronald Knox est mort le 24 août 1957 à 69 ans à Mells, Somerset. Et il nous faut signaler ici un fait assez remarquable qui précisément témoigne de la place qu'il tenait dans la vie britannique. Le premier ministre d'Angleterre, M. Macmillan, qui était un ancien élève de Mgr Knox, assistait à ses funérailles. C'était la première fois depuis des siècles qu'on notait la présence officielle d'un premier ministre anglais à un service catholique. Il est bien difficile de classer Mgr Ronald Knox. C'est un auteur d'une extraordinaire fécondité. Il a abordé bien des genres. On se demande dans lequel il excelle le plus. C'est un écrivain sacré, un maître en spiritualité. C'est aussi un écrivain profane, des romans policiers. C'est un ami de la satire aussi. Un jour, il a voulu louer Hilaire Belloc, dont il faudrait bien que je vous parle un jour, dans l'oraison funèbre qu'il a prononcée le 5 août 1953, à la cathédrale de Westminster. C'est pas l'abbaye de Westminster, ne vous trompez pas, c'est la cathédrale de Westminster, qui est une cathédrale catholique. Il dit de lui que c'était un maître de la prose anglaise, un écrivain satirique, un historien. Puis il a ajouté, très intelligemment, que pour les chrétiens, c'était un prophète. On n'a pas grand-chose à changer pour appliquer tout ça à Mgr Knox lui-même. Il était un maître de la prose anglaise. Nul n'en doute qu'il a été séduit par la traduction précise et élégante de cette Bible, par la vigueur de pensée, par le style original et brillant de tous ces livres qu'il déclare aimer plus que tous, là, comme « Let Dawn's Delight »,« Barchester Pilgrimage »,« Essays in Satire » et surtout « Enthusiasm » dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le préféré de son cœur, « Enthusiasm ». Un écrivain satirique, comme le montrent quelques-uns de ses ouvrages cités plus haut. Mais comment d'ailleurs un Anglais authentique comme Mgr Knox pourrait-il manquer d'humour, hein? C'est pas possible. C'est un trait caractéristique des écrivains anglais, surtout chez les catholiques, hein? On peut le noter. Pensez à Belloc, Chesterton, dont je vais vous parler dans quelques semaines. Baring, puis aussi Evelyn Waugh, Graham Greene, Bruce Marshall. Simple besoin chez eux peut-être de laisser se manifester la joie intense qui emplit leur cœur. La joie, qui est une vertu chrétienne, la joie, ne l'oublions pas, soyons des chrétiens joyeux. Oh, des chrétiens tristes, c'est triste, c'est donc triste. On l'oublie trop. Mgr Knox, lui, le sait bien. S'il n'est pas un historien au sens technique du terme, peut-être faut-il dire de lui qu'il est un écrivain spirituel. Quelques-uns de ses livres qui traitent de la mystique ou de la vie chrétienne sont traduits en français. Mais il faut les chercher, c'est pas facile. Oh, il y en avait autrefois, mais est-ce qu'on publie encore Mgr Knox? Que c'est triste de penser à tous ces gens merveilleux qu'on oublie. On les oublie. J'aurais le goût d'ouvrir, le prayer book et puis de vous réciter des prières pour les funérailles, hein, comme « Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant. Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent. C'est très beau, ô Dieu, par la glorieuse résurrection de ton Fils, tu as détruit la mort et fait briller la vie éternelle. Accorde à ton serviteur de ressusciter avec le Christ pour connaître sa présence et jouir de sa gloire éternelle. » C'est tiré de ce prayer book, le livre de prière. En français, c'est le livre de la prière commune. Vous pouvez acheter ça dans les magasins de sous la cathédrale, là. Il y a une librairie, là. Ça se vend $3.50 pour y prier avec les Anglicans. Avec joie, on a le droit, vous savez. Ce sont nos frères séparés, malheureusement, prions pour eux.